L'UCE critique l'accord de Bougival. La commission exécutive élargie de l'Union calédonienne estime que le projet d'accord présente de très faibles perspectives de sortir du joug colonial et qu'il propose des attributs de souveraineté de façade. Le Palika, de son côté, en revanche, confirme son adhésion au projet d'accord. Il fixe, selon lui, le chemin d'accès progressif à la souveraineté sur des bases innovantes, nouvelles, inédites et inéluctables. Mobilisation face à la recrudescence d'actes de délinquance sur le territoire. Le haut-commissaire Jacques Billan condamne fermement les violences du week-end dernier. Il demande également un renforcement des dispositifs de sécurité en zone police et gendarmerie. En métropole, plusieurs villes décrètent un couvre-feu la nuit pour les mineurs de moins de 16 ans. C'est le cas de Nîmes, Béziers ou encore Limoges. Le sport est Tadej Pogacar qui rêve sûrement du Mont Ventoux. Le Slovène attaquera la dernière semaine du Tour de France en jaune par le Mont Chauve. Et puis la météo en Nouvelle-Calédonie avec des nuages qui s'attardent aux Loyautés tandis que d'autres remontent sur le sud-ouest et déposent de rares ondées. Ailleurs, le soleil brille généreusement. Beau soleil pour cet après-midi malgré quelques remontées nuageuses sur la façade ouest. Quant aux températures maximales, elles continuent de diminuer et se rapprochent des valeurs de saison comprises entre 24 et 26 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne.
Oui, avec les fondamentaux du combat du peuple kanak qui n'apparaissent pas dans le projet d'accord signé à Bougival. C'est en tout cas l'analyse de la commission exécutive élargie de l'Union calédonienne qui était réunie ce lundi, Elisabeth Noir.
Dans un communiqué signé du secrétaire général de l'UCE, Dominique Fauchy, la commission exécutive élargie de l'Union calédonienne procède à une démolition en règle du document signé à Bougival. Elle estime que le projet d'accord présente de très faibles perspectives de sortir du joug colonial et qu'il propose des attributs de souveraineté de façade. Elle ajoute que la nationalité n'en est pas une, car elle est assujettie à la nationalité française, que le transfert des compétences régaliennes présente des verrous infranchissables, que la reconnaissance internationale n'est pas clairement précisée, et enfin que le dégel du corps électoral est synonyme de recolonisation de notre pays. La commission exécutive dénonce aussi les stratégies de l'État qui, et je cite, « continue d'ignorer la contestation du référendum de 2021 par le FLNKS et qui se défausse de sa responsabilité dans la révolte du 13 mai qui trouve sa source dans le projet de loi constitutionnelle portant l'ouverture du corps électoral ». La commission exécutive de l'UCE dénonce aussi la méthode de dialogue qui pose question autant que la communication à l'issue de la signature du projet d'accord qui reste à ce stade un projet. Elle indique enfin qu'au vu de ces premiers éléments, le comité directeur du 26 juillet se positionnera sur les perspectives à donner pour la suite des discussions sur l'avenir politique du pays. Fin de citation. L'Union calédonienne prend donc très clairement ses distances avec l'accord signé pourtant par son président Emmanuel Tchibaou, par Rokwamitan, Michael Forrest ou Omera Neslin, qui sont tous membres de l'Union calédonienne.
Et on rappelle que c'est aujourd'hui que le bureau politique du FLNKS doit se prononcer sur l'accord signé à Bougival. Une attitude complètement différente maintenant de la part du Palika qui rend public la motion sur l'avenir politique et institutionnel de la Nouvelle-Calédonie qu'il a adoptée lors de son congrès extraordinaire réuni samedi à Vaud. Le Palika qui considère que le projet présenté par ses négociateurs réaffirme les orientations fondamentales de l'accord de Nouméa et qu'il constitue une avancée politique majeure, Léana Colombo.
Oui, selon le Palika, le projet d'accord poursuit les grands objectifs d'émancipation et de décolonisation fixés par les accords de Matignon et l'accord de Nouméa, en actant la création et l'émergence de l'État de Nouvelle-Calédonie. Il fixe le chemin d'accès progressif à la souveraineté sur des bases innovantes, nouvelles, inédites et inéluctables. Il cite la création d'un État de Nouvelle-Calédonie, l'institution d'une nationalité calédonienne, le transfert des relations extérieures à la Nouvelle-Calédonie, l'accès à un statut international ou encore l'association de la Nouvelle-Calédonie à l'exercice des compétences régaliennes. Le Palika estime par ailleurs que le cheminement vers la souveraineté se traduit par une capacité d'auto-organisation très élargie. Sur ces fondements, le Congrès extraordinaire acte ce projet d'accord comme une étape nouvelle dans la décolonisation et l'émancipation du pays. Le Congrès extraordinaire du Palika exhorte les structures du parti à prendre toutes les initiatives pour que le projet recueille l'adhésion du plus grand nombre et il appelle à porter ce projet d'accord en vue de son adoption lors de la consultation prévue en début de l'année 2026.
Radio Rythme Bleu, 6h35.
Je le disais en titre, le haut-commissaire condamne avec la plus grande fermeté les actes de délinquance du week-end dernier. Dans un communiqué publié hier soir, Jacques Billan affirme qu'aucun fait ne restera impuni, Léana.
Le haut-commissaire qui a demandé à la police et à la gendarmerie de renforcer leur dispositif de sécurité afin d'être plus visible et plus réactif sur l'ensemble du territoire pour mieux lutter contre tous les types de troubles à l'ordre public. Le haut-commissariat indique par ailleurs que 5 personnes ont été interpellées pour des violences urbaines commises à Nouméa dans la nuit de vendredi à samedi dans les quartiers de Caméré, Normandie et Pierre-Lanquette. Il annonce également que 2 personnes ont été placées en garde à vue pour l'incendie de Plastinor à Pointe-Bout et que 4 personnes ont été arrêtées lors d'un cambriolage à Farino.
Une intrusion et une agression d'un enfant qui ont fait aussi réagir l'Union des pompiers calédoniens, l'UPC, qui condamne fermement la recrudescence de violences sur le territoire et s'insurge quant à l'agression de l'enfant de l'un de leurs collègues à Farino hier matin. Les faits se sont déroulés après une série de vols signalés par les habitants dans la nuit de dimanche à lundi sur la commune Léana Colombo.
Aux alentours de 3h du matin, 5 individus ont tenté de voler plusieurs véhicules, mais ont été mis en fuite par les habitants. Après de multiples tentatives, ils finissent par dérober une voiture, mais ils sont vite repérés par les gendarmes et s'enfuient. Tôt hier matin, un des 5 voleurs s'introduit dans une maison à Focola pour voler les clés et tenter d'échapper aux forces de l'ordre. Problème, il tombe nez à nez avec un enfant habitant ici et prenant son petit déjeuner. À leur lieu, l'agression qui est filmée par une caméra de surveillance. L'intrus est toujours recherché, tandis que nous le disions, les 4 autres voleurs ont été interpellés par la gendarmerie. Une série de vols et d'agressions qui se multiplient un peu partout sur le territoire et que dénonce Isabelle Marlier, secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens.
Ça fait à peu près une quinzaine de jours où on sent que ça monte en puissance et en nombre, surtout. Le nombre d'agressions contre les civils, contre les jeunes, les départs de feux volontaires, que ce soit entreprises, maisons, feux de brousse, feux de végétaux. On sent depuis une quinzaine de jours qu'on remet les pompiers sous tension. À peine un mois ou deux de la saison chaude, des départs des feux de brousse traditionnels, on va dire. Donc effectivement, on s'inquiète. Et puis là, ben oui, encore des enfants, quoi. Là, ça commence à prendre une proportion qui est franchement intolérable.
La gendarmerie a lancé un appel à témoins pour localiser et arrêter le dernier suspect en fuite.
Et dans un communiqué, les communes de Boulou-Paris, Farino, La Foy, Moindou et Saraméa appellent à une réaction immédiate de l'État pour lutter contre l'insécurité. Écoutez la maire de La Foy, Florence Roland, qui déplore cette montée en puissance de la délinquance.
Nous assistons à des actes de délinquance, des atteintes aux personnes sur nos communes. Et bien, une escalade inquiétante de cette délinquance-là sur nos communes rurales. Les communes, aujourd'hui, ont besoin d'un soutien renforcé bien du gouvernement et des provinces qui nous accompagnent aussi pour mener ces actions de prévention de la délinquance. Nous avons mis en place des mesures de prévention de la délinquance sur nos communes. Nous avons mis en place des caméras de vidéoprotection. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une réaction immédiate de l'État. Mais nous avons besoin de plus de contrôle, d'un renforcement de ces effectifs-là. Et puis, bien évidemment, d'une réponse judiciaire claire.
Les maires des communes appellent donc la population à rester unie, solidaire et responsable et à refuser les appels à la violence. Fin de citation de ce communiqué. Pas de transport scolaire à Poya jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise hier avec la société Arc-en-Ciel et la mairie de Poya, Léana Colombo.
Dimanche soir, un feu s'est déclaré au dépôt d'autocars situé à Basse-Poya. L'incendie s'est déclaré vers 22h, là où stationnent les bus Arc-en-Ciel qui assurent notamment le ramassage scolaire. 4 véhicules ont entièrement brûlé. 2 autres ont également été impactés. Vitres brisées notamment, ce qui les rend inutilisables. Plus de 130 enfants de la commune sont concernés par ce manque de transport scolaire. Les précisions d'Evelyne Goro-Attu, maire de Poya.
Le transport scolaire n'est plus assuré sur certains circuits donc qui concernaient l'entreprise en question dont les dégradations ont eu lieu. Donc 6 bus. Donc pour le collège jusqu'à nouvel ordre, les circuits des tribus de Guapin, Montfaoué, Népouy et Basse-Poya ne seront pas assurés. Et puis pour le primaire, donc tout ce qui est circuit de Guapin, Basse-Poya, Népou et Moinda ne sont plus assurés pour l'instant. C'est des décisions qui ont été prises le temps que l'entreprise s'organise et puisse nous proposer donc des nouveaux véhicules quoi, en fait, pour assurer le transport.
Ça veut dire que les parents doivent s'organiser pour pallier?
Je veux dire, pour ceux qui sont proches et tout, il faudra qu'ils s'organisent. Qui ont les moyens, ils pourront le faire. Mais ceux qui, voilà, on est vraiment désolé, mais là, on n'a pas d'autres possibilités. Donc on fait au mieux avec l'entreprise pour essayer d'assurer au plus tôt.
C'est une équipe de la sécurité civile qui a dû intervenir avec notamment deux camions pour stopper au plus vite la propagation des flammes dans des conditions difficiles. Les trois véhicules de la flotte de bus qui restent indemnes ont tout de même pu procéder au ramassage scolaire des collégiens de Népouille et des tribus hier. Une enquête a été ouverte par les gendarmes.
Autre réaction politique ce coup-ci avec une mise en garde du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie. On ne construit pas la paix sur des cendres. Dans un communiqué, il déplore des actes de délinquance politique dans la sinistre continuité des événements du 13 mai 2024. Pour le Rassemblement national, ces exactions sont le symptôme d'un territoire profondément fracturé et ils fustigent un accord censé ramener la paix dont les signataires semblent incapables de convaincre leurs propres partisans. Pour le Rassemblement national, aucune négociation, aucune avancée politique ne peut se faire dans un climat de menaces et de chantage. Et il appelle les partis indépendantistes à condamner ces actes publiquement et à cesser d'utiliser la rue comme argument politique. Fin de citation. En bref, toujours, signalons la présence d'un nouveau directeur de cabinet pour le ministre des Outre-mer. Thomas Degos succède à Christophe Mirmand. Thomas Degos qui possède une expérience de l'administration centrale, territoriale et interministérielle. Il a notamment exercé des fonctions de préfet à Mayotte, directeur de cabinet du préfet de la région Guadeloupe, puis directeur général des Outre-mer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici tout d'abord la réponse à notre question d'hier. 57% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le FLNKS va finalement valider l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie que sa délégation a signé à Bougival. Ils sont donc 43% à penser à l'inverse que le FLNKS ne va pas le valider. Voici maintenant notre question du jour. Les exactions, les violences urbaines et les incendies qui se multiplient ces dernières semaines, sont-ils selon vous des actes de délinquance politique? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, mercredi, pour la réponse à la question du jour. En bref, un rendez-vous sur notre antenne. Le gouvernement, en partenariat avec l'UNC, organise aujourd'hui le Forum calédonien du changement climatique. C'est le deuxième rendez-vous du genre. Il doit permettre de faire le point sur les avancées de la stratégie calédonienne du changement climatique, de présenter des projets locaux de recherche et d'adaptation, mais aussi de valorisation des initiatives menées par les jeunes générations. Un sujet dont nous parlerons ce matin avec Jérémy Catidjo-Monnier, le membre du gouvernement en charge notamment de l'environnement et de la transition écologique, sera tout à l'heure notre invité du matin à 7h30. En attendant, il est 6h passé de 43 minutes. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire et notamment un retour sur cette séance du Congrès marquée par l'examen d'une proposition de loi du pays qui portait sur diverses mesures de sauvegarde économique et de reconstruction.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Très bonne nouvelle, le Passeport Gourmand lance sa 22e édition. Profitez de réductions jusqu'à moins 50% dans une sélection de restaurants, snacking, traiteurs, mais aussi des loisirs et du bien-être partout en Calédonie. Le Passeport Gourmand, c'est votre guide de découverte prestigieux, idéal pour les bons vivants et les gourmands du Caillou. Disponible dès maintenant en édition limitée, alors ne tardez pas, réservez le vôtre sur www.passeportgourmand.nc ou directement au bureau à Val-Plaisance. Renseignements au 25 25 02.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et une première séance au Congrès hier, depuis le retour des élus de leurs négociations à Paris. Une séance marquée par l'examen d'une proposition de loi du pays, je le disais, portant diverses mesures de sauvegarde économique et de reconstruction. Et elle a été posée sur le bureau du Congrès par les élus de l'intergroupe Les Loyalistes Rassemblement, Léana Colombo.
Ce texte propose plus précisément plusieurs mesures fiscales visant à soutenir la relance des secteurs les plus affectés par la crise. Il s'articule autour de quatre grands axes. Le premier apporte son soutien au secteur de l'immobilier, du BTP et des travaux publics. Pour inciter la relance de ces domaines d'activité, l'intergroupe propose notamment de réduire les droits d'enregistrement pour toutes les acquisitions immobilières destinées à l'habitation principale. On parle ici des frais de notaire qui seraient réduits de 4% à 0,5%. Autre secteur en grande difficulté est d'ailleurs au cœur de l'actualité aujourd'hui, celui des professions de santé. 138 médecins ont quitté le territoire au 31 décembre 2024. 30% des postes de soignants sont sont donc vacants. Face à la pénurie de professionnels de santé, le texte propose plusieurs mesures d'ordre fiscal, détaillées par Françoise Suvet, rapporteur spécial du texte. Selon elle, cette proposition est une main tendue aux Calédoniens.
Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui, si nous ne faisons rien, nous allons continuer à perdre les recettes fiscales. Il y a des mesures qui sont très concrètes, ça concerne le BTP et l'immobilier. C'est comment on fait pour garder les Calédoniens et les jeunes Calédoniens sur le territoire, comment on les aide à investir dans leur habitation principale. Donc là, on a des droits d'enregistrement qui sont minorés. Et il y a la déductibilité des intérêts d'emprunt qui est portée pour Nouméa de 500 000 francs à 2 millions, y compris sur l'agglomération, et le reste du territoire reste comme ça l'était aujourd'hui, c'est-à-dire déplafonné. On a également une mesure pour les professionnels de santé. On sait qu'aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc, on apporte aussi une pierre à l'édifice au niveau de ces professionnels de santé par un abattement sur l'impôt sur le revenu qui est de 20%. Et on donne la main au gouvernement pour définir effectivement quelle spécialité est en pénurie. Et l'autre mesure, c'est pour les infirmiers. On donne également un abattement de 20% sur l'impôt sur le revenu aux infirmiers. Donc, des mesures très simples, mais très concrète, bordée dans le temps, puisque ça dure à partir de la date de promulgation de la loi du pays et jusqu'en 2027.
La proposition de loi du pays abordait également la question du pouvoir d'achat des Calédoniens, mais la mesure proposée n'a finalement pas été retenue. Enfin, le quatrième axe supporté par ce texte apporte un soutien à la reconstruction des entreprises, notamment celles qui ont été indemnisées par leur assureur. Il prévoit de réduire leurs dépenses fiscales. Cette proposition de loi du pays a suscité de longs débats. Les groupes indépendantistes estiment que ces mesures viendraient diminuer les recettes fiscales et donc creuser les inégalités sociales et rendrait difficile le remboursement de la dette, comme l'explique Pierre Chanel Tutugoro, président du groupe UCF-LNKS et nationaliste au Congrès.
Vous avez dû entendre, on a formulé 4 propositions, en citant les 4 éléments qui nous posaient problème, notamment sur le lien avec la convention de prêt. Cette convention de prêt, notre engagement nous interdisait de réduire nos recettes, les recettes du pays. Or, un certain nombre de textes qui ont été proposés là réduisent les recettes, participe aussi à diminuer un certain nombre de recettes, c'est ce qu'on a dit. On a dit aussi que sur tout ce qui relève des niches fiscales, il fallait l'engager, mais sur le délai de la mandature. Donc on ne peut pas s'engager pour les autres élus qui viendront après.
Au contraire, pour l'intergroupe des loyalistes, la diminution de la pression fiscale permet de retenir et d'attirer des professionnels sur le territoire. Elle incite à la consommation, projette de recréer des emplois et entraîne donc à terme une augmentation des recettes fiscales et une relance de l'économie. Le texte a finalement été adopté à la majorité, 28 voix pour et 15 abstentions des groupes indépendantistes.
Et j'ajoute que nous reviendrons ce midi sur ces mesures adoptées hier au Congrès dans le magazine Citoyen. Nous serons en compagnie notamment de François Suvet, chef du groupe loyaliste, et du docteur Kader Saïdi, président du collectif Santé en danger, ainsi que d'un membre de la Fédération des agents immobiliers. Était également à l'ordre du jour de cette séance du Congrès un projet de loi du pays visant à mettre en conformité la loi calédonienne sur la réglementation internationale en matière de transport des matières dangereuses. Les élus ont également adopté un projet de délibération portant sur le transfert à titre gratuit des parts sociales de la Nouvelle-Calédonie dans le capital de la société Air Calédonie à l'Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie. Et puisqu'on parlait tout à l'heure des difficultés dans le domaine de la santé, hier matin, il y avait une mobilisation à Koné des administrés des communes limitrophes des centres hospitaliers de Point-d'Imier et de Koumac. Ils voulaient dénoncer la fermeture des urgences depuis le début de l'année. Le collectif SOS Santé en péril en province nord a été mis en place par la population qui demande la réouverture des urgences de Point-d'Imier et de Koumac. Parmi les responsables de ce collectif, Yacine Santino.
Notre mouvement, là, ce n'est pas tant de venir et faire du bruit, dire qu'on a fait quelque chose. Quand nous nous sommes présentés en face de chaque institution, nous avons aussi proposé des idées. Et donc, si on nous intègre, en tous les cas, le collectif, je pense notamment aux personnels soignants, si on intègre ce collectif aux discussions pour l'avancée de nos soins ici en province nord, alors ce sera une grosse pierre de poser. Nous avons un objectif. Nous ne nous arrêterons pas là si rien n'est fait. C'est certain. Aujourd'hui, la population s'est levée. Aujourd'hui, la population est prête à se remettre sur la route. Et s'il faut bloquer les routes, s'il faut bloquer les institutions, pardonnez-nous, hein, mais si on voit passer par ce levier, malheureusement, c'est triste à le dire, hein, mais ce sont des moyens forts comme ça qui nous permettent d'être entendus et d'être écoutés. Nous sommes déterminés.
Une délégation a été reçue par Valentino Rissouquet, élu en charge de la santé et de la direction des affaires sanitaires, sociales et de la prévention ainsi que de la solidarité de la province Nord. Elle a également été reçue par le directeur du centre hospitalier du Nord, Joachim Tutugoro.
Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas plus de réponses que celles que j'ai déjà données sur des communiqués mensuels que je fais, où je fais état du maintien de la fermeture des urgences de ces services-là. C'est simplement, c'est toujours l'effectif, les ressources en infirmiers qui nous font défaut. Donc, qui font qu'on ne peut pas ouvrir donc les urgences de Pointe-Imier et de Comac. Et les ressources dont je dispose, je les maintiens concentrées sur Koné pour continuer à faire tourner Koné, qui n'est plus que le seul établissement où nous avons une urgence dans le Nord. Et Koné parce que le gros des effectifs, le plateau technique, donc il faut coûte que coûte maintenir cet outil-là ouvert. Donc avec le niveau d'équipement dont il dispose, que n'ont pas les deux autres petits hôpitaux de Koumak et Pointe-Imier, et qu'on ne peut pas sacrifier celui-ci pour ne rien avoir du tout.
Des propos recueillis par Kelinda Boiscou. Nouméa a récompensé hier des projets en faveur du handicap. 4 établissements scolaires et 7 associations sont les lauréats de l'édition 2025 de l'appel à projets du programme du CCAS de la ville de Nouméa, Bien vivre son corps et son handicap. Une opération qui vise à soutenir les initiatives permettant d'améliorer les conditions de vie et le quotidien des personnes en situation de handicap. Écoutez les précisions de Valérie Leclerc, la directrice du Centre communal d'action sociale de Nouméa.
L'objectif, c'est à travers un financement qui est de 300 000 francs, de financer des activités, des dispositifs pour des enfants, des adultes en situation de handicap pour améliorer leur quotidien. Le top 1 revient au Collège de Normandie pour un jeu qui s'appelle le Tsuro. Et la particularité de leur projet réside dans le fait qu'ils ont associé la classe de SECPA et la classe d'Ulysse. Donc on a trouvé intéressant le fait d'associer différents élèves, mais surtout d'inverser les rôles pour une fois. Ce sont ces élèves-là qui vont être pilotes d'un projet et qui concernent l'ensemble des collégiens.
Le premier prix, vous venez de l'entendre, a donc été attribué à la classe Ulysse du Collège de Normandie pour le projet Jeu de Tsuro gratuit, géant, pardon. Les explications de Sylvie Dorigny, enseignante spécialisée et coordinatrice de l'Ulysse.
Je suis très fière, très contente pour les élèves de les mettre en valeur. Quelle surprise d'avoir le premier prix, on est encore plus fiers. Donc les élèves de SECPA vont fabriquer un jeu de société en version géante. C'est comme une grande table de pique-nique. Et les élèves Ulysse, eux, vont être les élèves qui maîtrisent le jeu, donc les maîtres du jeu. Et c'est eux qui vont, à chaque utilisation du jeu, sortir les pions, gérer la table de jeu, expliquer les règles aux élèves entendants et de la cour de récréation du Collège Normandie. L'idée est venue à la dernière minute, que j'ai moi-même eu une journée jeu de société avec des collègues. En y jouant et tout ça, je me suis dit, mais c'est un jeu excellent pour pouvoir le mettre en place et par les élèves et le faire farfar. Fabriqué par les élèves. Et en plus de ça, les élèves qui l'ont représenté font partie du CVC, Conseil de la vie collégienne. C'était aussi leur façon de participer à l'aménagement de l'espace de la cour de récréation et d'améliorer les conditions de vie et de repos des élèves lors des temps de pause méridienne.
11 projets ont donc été retenus et ils ont reçu au total 2 600 000 francs pour leur réalisation. Il est 6h54, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole et notamment des mesures de couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans dans certaines villes.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture.
Canel fête ses 30 ans et c'est vous qui recevez les cadeaux. Jusqu'à la fin de l'année, tentez de gagner 30 ans d'Internet et ce n'est pas tout. Chaque semaine et pendant toute l'année, un abonné sera tiré au sort et remportera un mois d'abonnement. Jeu réservé aux abonnés Canel. Plus d'infos en boutique.
Brousse Service Express a le plaisir de vous annoncer qu'à compter du lundi 4 août 2025, la reprise des services de livraison dans le Nord s'effectueront tous les jours du lundi au vendredi. Pour plus de renseignements, un seul numéro, le 24 90 45.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Matin, belle actualité en métropole, on retrouve Nicolas Legrand.
Est-ce vraiment une solution pour lutter contre les incivilités et la délinquance? Le couvre-feu pour les mineurs a été instauré dans plusieurs villes de métropole ces derniers jours. C'est le cas de Nîmes, de Saint-Ouen-sur-Seine ou encore de Limoges, où une centaine de personnes cagoulées et armées ont défié les forces de l'ordre le week-end dernier. Une mesure plutôt radicale qui vise à rétablir l'ordre, mais on s'interroge aussi sur la portée de ce couvre-feu. Écoutez le maire d'Hiver Droite de Limoges, Émile Roger Lomberti. Il constate clairement les limites de cette mesure. Écoutez.
Quand vous regardez ce qui s'est passé vendredi dernier, vous vous dites ça sert à rien, parce qu'il y avait des très jeunes au milieu d'un peu plus âgés, mais dans la mesure où ils étaient 4 fois plus nombreux que la police, eh bien, personne n'a pu les intercepter. En fait, s'il y a des mouvements importants, le couvre-feu ne sert à rien. Si ça alertait un bon nombre de parents pour faire en sorte d'être attentifs au comportement nocturne de leur enfant et veiller à ce qu'il ne soit pas à la rue tard le soir, ça, c'est déjà quelque chose de positif. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu à raccompagner des enfants, donc on se disait ben, ça a eu un effet un peu préventif. On va voir à la fin de l'été ce qu'il en sera, mais je crois que c'est une fausse bonne idée. Honnêtement, avec la violence qui monte, je vois mal comment ça peut être utilisé.
Et parmi les autres villes qui ont instauré ce couvre-feu, Béziers où 80 CRS ont été déployés après des violences survenues il y a quelques jours. La pétition contre la loi du plomb dépasse le million de signatures quelques jours seulement après l'adoption du texte au Parlement, c'était le 8 juillet dernier. Conséquence, la pétition sera débattue au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les signataires dénoncent une aberration écologique avec notamment la réintroduction d'un pesticide interdit en France depuis 2020. Une pétition qui n'est pas bien reçue évidemment par le monde paysan, puisque pour beaucoup, cette loi du plomb doit venir en aide à une filière en souffrance. Pour Jérôme Bail, figure de la contestation paysanne, cette loi est vitale pour la survie de l'agriculture française. Écoutez.
La loi du plomb, c'est pas que l'acétamipride, c'est la simplification administrative pour l'agriculture, c'est permettre la facilitation pour les retenues d'eau. Les Français aiment ses agriculteurs, mais pas son agriculture. Il va falloir peut-être aimer l'agriculture française, qui est quand même la plus vertueuse au monde.
Le succès de cette pétition qui a déjà rassemblé plus d'1 300 000 signatures met la pression sur le Conseil constitutionnel. Les sages ont en effet jusqu'au 10 août prochain pour se prononcer. En bref, le parquet général de Paris se pourvoit en cassation contre la libération du terroriste libanais pro-palestinien Georges Abdallah. Il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1987 pour le meurtre en 1982 de 2 diplomates de nationalité israélienne et américaine. Jeudi dernier, la Cour d'appel de Paris avait ordonné cette libération et son expulsion immédiate vers le Liban. Le ministère public estime que la décision de la Cour n'est pas conforme à la jurisprudence. Cet appel du parquet n'empêchera pas Georges Abdallah de quitter comme prévu sa prison française vendredi. Le député de la deuxième circonscription Emmanuel Chibaou avait notamment apporté son soutien, on s'en souvient, à la libération de Georges Abdallah. Quant à Jean-Noël Barrot, il est en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères réaffirme le soutien de la France à Kiev dans son conflit avec Moscou. Il s'est rendu notamment à la centrale nucléaire de Tchernobyl, parmi les infrastructures énergétiques ciblées par les frappes russes depuis le début de la guerre. 6h58, on marque une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Alerte, alerte, méga deal au parking Birakeim. 300 véhicules d'occasion à prix choc et jusqu'à 500 000 francs d'avantage client. Oui, vous avez bien entendu, un méga deal avec jusqu'à 500 000 francs d'avantage client. Offre valable jusqu'au 16 août. Faites vite, hein, ça part vite. Hein. Rendez-vous rue Jacques Ekaoué, PK4, parking Birakeim pour faire la méga bonne affaire. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Le Salon du Tourisme revient le samedi 26 juillet de 9h à 19h au Parc Brunelet à Nouméa. Profitez de l'entrée gratuite pour découvrir les loisirs et les activités touristiques en province sud et bénéficiez d'offres exceptionnelles. Animations, concerts, show cooking, food court et espaces pique-nique seront au rendez-vous. Plus d'informations sur le site de sudtourisme.nc, un événement organisé par l'agence d'attractivité Sud Tourisme.
RRB, première radio d'information.
L'actualité sportive avec vous, Nicolas Legrand.
Et on commence avec le cyclisme.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Et en cyclisme, c'était jour de repos sur le Tour de France. La nuit prochaine, le peloton s'attaquera au Mont Ventoux pour la 16e étape. Un monument taillé pour Tadej Pogacar qui n'a jamais inscrit son nom au palmarès du Mont Ventoux. C'est la dernière semaine de course. Les coureurs arriveront dimanche sur les Champs-Élysées. En tennis, plusieurs Français sont à Washington. Ils participent à l'ATP 500. Benjamin Bonzi a été sorti au premier tour par le Hongrois Fabian Marosan. Quant à Alexandre Muller, il est opposé à Bébit Zukarayev. Et plus tard dans la matinée, Giovanni Mpechipé-Ricard sera face à l'Australien Alexander Vukic.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagée.
Les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin des nuages s'attarderont en Loyauté, tandis que d'autres remonteront sur le sud-ouest et déposeront de rares ondées ailleurs. Le soleil brillera généreusement. La côte est sera souvent démontée. Ailleurs, le vent orienté sud-sud-est entre 5 et 10 nœuds et localement 10 à 15 nœuds, ça sera le maximum aux pointes de la Grande Terre et sur les Loyautés. Cet après-midi, beau soleil malgré quelques remontées nuageuses sur la façade ouest et de rares ondées sur la pointe sud-ouest. Des nuages issus de la chaîne finiront par déborder vers le nord-est. Sur la côte est, des brises de sud-est s'installeront entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, le vent orienté sud-est se renforce et avoisinera les 15 nœuds, localement proche des 20 nœuds aux pointes de la Grande Terre. Sur le nord-ouest ainsi qu'au Loyauté, les températures maximales comprises elles en général entre 24 et 26 degrés.